Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h05, on y revient au Mastic, on est dans le Super Moscato Show comme tous les jours. On est là de 15h à 18h du lundi au vendredi. Nous sommes avec le Stifoulé. Ouais, comment il va le Stifoulé?
Salut mon petit Vavin, salut à tous, écoute, tout va bien, en pleine forme.
En forme.
Ouais, pour super. Pour faire une belle mission.
Ce soir, vous allez à Roland-Garros, on m'a dit.
Effectivement, je vais à Roland-Garros et puis après je vais voir si je regarde le match en direct ou pas, au milieu de la nuit. On va stater.
C'est ça les privilèges. Écoute, profite-en. Oh, on en a un qui a des privilèges, mais qui morfle un peu en ce moment. C'est Eric Dimeco. Comment il va, Eric?
Tu sais, salut Vincent, salut Steve, bonjour, salut Pierrot, salut Adrien. Tu sais, Vincent, quand on est en bonne santé, on est privilégié. Ouais. Et ça suffit.
Voilà, c'est un bonheur. T'es pas forcément privilégié, donc toi.
Ah, moi, je suis en bonne santé. En plus, ce matin, je suis allé voir mon cardiologue. Écoute-moi, un cœur de jeune homme, il m'a dit.
Méfie-toi-en. Parce que moi, j'en ai vu, là. Ils sortaient, ils fument des. Tu sais, les mecs, ils fument comme des pompiers. Tu dis, putain, j'étais voir le cardiologue. Tout ça, ils m'ont fait une radio des poumons. Un bébé. Quand trois jours après, les mecs, ils étaient morts.
Crac. Oh,
ça, j'en ai vu des dizaines.
Des dizaines, ah ouais.
Ah, non, mais je te jure. Ah, non, mais tous les pauvres, ils te disent ça.
C'est connu.
Ah, ben, écoute-moi, les prises de ça, ils te disent impeccable.
C'est connu, pour être en forme, il faut fumer un paquet par jour.
Ah bah oui,
c'est connu.
Je crois que le cardiologue de Renault, il lui a dit, vous avez un cœur de...
Ah bah écoute-moi, je suis persuadé qu'il y a 10 ans, il y a un mec qui lui a dit qu'il était en pleine santé. Que c'était... Ah bah, c'est tout le temps, attention, il y a des sorciers. Hein. Adrien Aigouet,
comment ça va les copains? Très bien, il est 15h07, la question moyenne, c'est l'info du jour en foot, et ça concerne l'OM. Bruno Genesio va devenir l'entraîneur de l'OM. A priori, c'est 3 ans. Question moyenne du jour.
Non, c'est impossible.
À la fin de son mandat, quel sera le bilan, selon vous, votre sentiment? Quel sera le bilan de Bruno Genesio une fois qu'il aura terminé son aventure à l'OM? Quel est le plus probable? Un titre?
C'est au bout de 3 ans. Attends. C'est au bout de 3 ans ou au bout de son aventure à l'OM?
Au bout de son aventure à l'OM.
Au bout de 6 mois. Donc
s'il reste 6 ans.
Oui. Voilà. Allez. Au bout de son aventure à l'OM, quel sera, selon vous, le bilan le plus probable de Genesio? Un titre. Je parle de tout titre possible. Coupe de France, Ligue 1, Trophée des Champions. Un titre. Ou, deuxième solution, 0 titre. Quel est le bilan le plus probable? Quel sera son bilan?
Est-ce qu'on peut rajouter...
Oui.
Du goudron et des plumes,
non, on peut rajouter non. Ça. On parle juste du sportif. Un titre ou 0 titre. Stephen, à la fin de l'aventure de Genesio à l'OM, l'OM n'a pas gagné de titre depuis 2012 et la Coupe de la Ligue.
Bah écoute, je pense que ce sera 0.
Tu penses que ce sera 0?
Mais ça ne voudra pas dire qu'il a fait un mauvais mandat.
Il peut faire Ligue des Champions chaque année, des belles aventures. Pierre Dorian.
Écoute, je pense que s'il gagne un titre, il va prolonger.
Ouais.
L'aventure va durer.
Ouais.
Il peut gagner un deuxième.
Oh.
Donc plutôt 0. Ouais. C'est-à-dire que plus paraît très bizarre qu'il fasse un titre et qu'il s'en aille.
Oui. Ou alors, c'est pas faux, Pierrot. T'es vraiment intelligent.
Et il peut faire 0, les précédents. Il fait 0 tous.
Vincent Moscato.
C'est vrai que vu la saison qu'il a fait cette année, on sent qu'il est revenu à un très bon niveau. C'est une référence. Donc je pense qu'il a 0 titre.
0 titre pour Vincent Moscato. Et le sentiment.
Ça vous fait rire. C'est rigolo.
Le sentiment.
On va encore bien s'amuser aujourd'hui. J'ai l'impression.
Le sentiment de la légende de l'Olympique de Marseille.
Non, mais alors, puisque tu as la bouche pleine de fiel, toi, tu vas nous dire, puisque pour réfléchir, tu nous as dit, depuis 15 ans, l'OM n'a plus gagné de titre.
Depuis 2012,
14 ans. Et Bruno Genesio, il a gagné combien de titres sur les 15 ans?
Intéressant.
Voilà, parce que si tu as la bouche pleine de fiel, je te pose une question pour voir si tu as fait ton boulot.
Mon boulot de journaliste.
Boulot de journaliste, c'est d'avoir cette info quand même. Quand tu nous poses la question.
Non, il était finaliste. Oui, il a rien gagné.
Bon,
en Chine, il a rien gagné en Chine.
Ah ouais, non, mais en Chine, ça, les gars, si vous voulez. Le concours de boule. Le concours de boule de 2014 en juillet.
Non, il a gagné la Coupe de France 2012, mais il était adjoint.
Quelle est ta réponse, Eric?
Bon, donc le problème, c'est que l'OM ne gagne rien. Mais Bruno, s'il ne gagne rien non plus, on est mal barré quand même.
Oui, bon, après, à l'arrivée, tu peux gagner à la fin de l'histoire.
Oui.
Oui. Bon. Eh ben moi, j'ai envie d'y croire.
Voilà.
De toute façon, vous êtes fait pour vous attendez. Voilà. C'est une rencontre de mecs qui gagnent rien entre Bruno Genesio et l'OM.
Vous répondez zéro. Vous répondez zéro à 62%. Ah ouais. Mais ça peut bouger en fonction des débats et du débat.
Oui, le débat 17h. Bruno Genesio. Genesio à l'OM, est-ce le bon choix, tout simplement? Voilà, c'est pas compliqué, hein, oui ou non? Est-ce le bon choix? On parlera aussi de Pierre Sage qui va quitter Lens. D'abord, Roland Garros. Ce Roland Garros, est-ce qu'il vous emballe ou est-ce qu'il vous ennuie? Et puis, à 16h, nous serons avec Philippe Saint-André parce que samedi, il y a la finale de Pro D2 entre Vannes et Provence Rugby. Les barrages, top 14, les barrages Pro D2, qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'on garde la formule? Tout?
Ah, tout.
Bon, c'est pas mal, les barrages top 14, quand même.
Pas tout, non plus.
C'est pas mal.
Il y a le suspense, ça se régale.
Grand quand même.
Et alors, au basket, si on enlève le filet, si on enlève le filet au basket, c'est la même chose.
Journal moyen, Adrien.
Voilà. Ça, on prendra la direction de New York déjà dans le journal moyen à 15h45. Ah oui, c'est du délire. Le prix des billets, la ville de New York qui signe des décrets spécifiques.
Je crois que même Vavin peut pas se
payer un billet. Non, et puis, Eric, ça va te plaire. Une nouvelle histoire de fils 2 dans le rugby. Ils vont de plus en plus loin, Eric. Ils vont de plus en plus loin dans les histoires de fils 2 dans le rugby. On n'est plus sur des privilèges, là, sur des nantis.
Non, mais là, il y a un gros problème dans ce sport par rapport à ça. Moi, je vous l'ai dit. Vous ne voulez pas m'écouter. Vous voulez pas m'écouter, mais ça veut dire, ça va nous exploser la gueule. Non, mais en réalité, ce sport est vraiment à la portée de tout le monde. Si tu es initié très jeune, tu as
un peu de barre de muscu, tu te mets sous une barre.
Et si tu as une bonne barre de muscu, avec des haltères qu'il faut, voilà, encore plus facile.
Et puis, on sera en direct de San Antonio.
Alors comment tu expliques alors un jour? Mais vous voulez pas le faire le débat. Mais explique-moi, Grand, pourquoi dans le rugby il y a autant de fils d'eux? Explique-moi.
Bah, parce que quand t'es le fils d'un ancien grand rugbyman, t'es baigné dès ton plus jeune âge au bord des terrains à jouer au rugby avec ton père, et donc forcément tu t'orientes vers ce sport-là. Allez, c'est aussi simple que ça.
Oui, c'est le cas de tous les fils de sportifs. C'est-à-dire que j'ai connu plein de joueurs de foot qui avaient leur fils qui baignait dans les vestiaires, dans les matchs et tout. Sauf qu'ils ne font pas tous carrière. Ça veut dire que jouer au rugby, c'est facile en réalité.
Que vous, c'est des cassos, vos enfants.
Allez, on sera aussi en direct de San Antonio avec Jacques Monclar. Le premier match des finales NBA, c'est dans la nuit prochaine. Mais tout de suite, messieurs, dames, 15h12. C'est l'heure de la sieste.
RMC, le Super Moscato Show. RMC, tennis.
Sur un terrain de tennis, tu mets que deux personnes ou quatre éventuellement. Tu divises par deux.
Pendant deux semaines.
C'est Roland Garros sur RMC.
Nîmes.
Toute la journée, les points importants.
Nîmes, riez.
Débat, analyse, décryptage.
4 x 4, tu as 8 personnes, enfin 12 personnes qui peuvent jouer en même temps.
Ne ratez rien. En ce moment, les internationaux de France de tennis à Roland-Garros.
Cet été, 4 premiers tours. Oui. Et c'est peut-être le début d'une saga, non? Vous ne croyez pas?
Non.
Sont sur RMC.
En fait, il n'y en a pas, c'est sous ça, j'ai jamais joué.
J'ai jamais les choses à goûter.
Numéro 1 sur le sport.
Gilbert, c'est du bonheur de voir ça, non?
Ouais, c'est sympa.
Breaking news.
Alors aujourd'hui, à Roland-Garros, fin des quarts de finale, on a eu une grosse surprise puisque la 114e joueuse mondiale Swalinska s'est qualifiée pour les demi. En ce moment, Sabalenka est à un set partout contre Schneider. On va y aller dans un instant. Et puis on aura dans le tableau masculin Auger Aliassim Koboli et Berrettini Arnaldi en nocturne. Il y aura un vainqueur inédit dans le tableau masculin. Êtes-vous emballé par cette incertitude ou déçu de ne pas retrouver les meilleurs? Voilà, c'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous vous ennuyez ou est-ce que vous êtes emballé par cette édition? Eric Salio et Sarah Pitkowski, bonjour.
Bonjour
à vous.
Alors déjà, parlez-nous de Sabalenka qui semblait maîtriser son quart de finale face à Schneider, mais qui se retrouve embarqué dans un troisième set.
Absolument. Sabalenka qui semblait partie de se diriger vers une qualif assez facile, elle sert pour le match. Et puis c'est vrai que les conditions de jeu sont pas faciles, il y a beaucoup de vent, tout s'est détraqué et Diana Schneider vient d'égaliser à une manche partout face à la numéro 1 mondiale. Et on sait qu'émotivement, Sabalenka parfois elle peut avoir des soucis, donc ça c'est, je vais suivre avec attention cette troisième manche.
Oui, c'est vrai que Sabalenka est sortie toute seule de ce match. Alors, il y a eu quand même quelques très belles accélérations de la gauchère, sa compatriote russe Londlin, qui a surpris Sabalenka. Et puis, elle s'est mise à douter sur tous les coups. Et effectivement, pour aller dans le sens d'Eric, les conditions ne sont pas faciles parce que certes, il y a du vent, mais comme la température, là, on est à moins 15 degrés par rapport à la semaine dernière, les balles, elles sont... c'est des pelotes de laine, c'est-à-dire que véritablement elles rebondissent beaucoup moins bien, et quand on a une joueuse puissante comme Sabalenka, et bien naturellement elle est plus aussi avantagée que la semaine dernière. Et comme Pierre, on va parler aussi de cette première demi-finale dame, et bien on va vous donner exactement les mêmes arguments.
Très bien, alors ça on va le faire dans un instant, et avant cela on en jette un œil au tableau masculin. Eric, il y a quand même dans le bas du tableau une demi-finale qui semble explosive entre Zverev et Mensik, parce que Mensik a fait forte impression hier. Hein.
Ah oui, parce que coller 3-7 à João Fonseca, qui avait quand même sorti Novak Djokovic et Casper Ruud, ça situe la qualité du Tchèque de 20 ans, qui a dû attendre sa 7e balle de match avant de conclure. Jakub Mensik a aussi des capacités de récupération assez étonnantes. Mercredi dernier, au deuxième tour, en plein cagnard, il avait été victime de crampes généralisées sur sa balle de match face à l'Argentin Navone. Il avait pu quitter le court sur ses deux jambes, mais avait eu recours au fauteuil roulant pour rejoindre l'infirmerie. Ah ouais, non, mais ça rigolait pas il y a une semaine, Vincent. Hein. Numéro 12 mondial après son titre à Miami en 2025. Il n'est pas vraiment confirmé, tracassé par des petits pépins physiques par-ci par-là, notamment un forfait à Melbourne alors qu'il devait jouer Novak Djokovic. Mais sa puissance peut causer de gros soucis à Sacha Zverev vendredi, c'est évident.
Vincent, tu t'ennuies ou tu t'éclates devant ce Roland Garros?
C'est-à-dire, en parler comme ça, quand on est ensemble, on ne s'ennuie pas, tu vois. À regarder, je ne sais pas, c'est différent. Mais en parler, quand dans notre émission, tout ça, c'est sympa, tu vois, on en parle, c'est agréable, qui va gagner, on est surpris, tu vois, Fonseca, tout ça, on est surpris. C'est agréable en parler. À regarder, ça l'est beaucoup moins. Ça l'est beaucoup moins. L'après-midi, quand même, c'est quand même.
Mais pourquoi?
Des fois, tu tombes sur des trucs, c'est un peu. Ben, parce que c'est. Voilà, c'est mon ressenti.
C'est les noms qui te rebutent, ou c'est le jeu, ce qui se passe?
Ouais, le jeu, et puis, bon, quand t'es, voilà, tu vois, je vais te dire, il faut des, tu sais, pas Djoko qui est plus là, t'as c'est un peu difficile, ouais, mais alors, je trouve qu'il y a moins de, moi, j'aurais aimé, mon point de vue, j'aurais aimé que Djoko arrive au bout, tu vois, qu'il fasse un, mais là, bon, le mec, il va gagner, ça va être un inconnu, ça va être, alors, une nouveauté, ça, je te dis pas que ça amène pas un peu de fraîcheur, mais pour moi, c'est moins, tu vois, c'est moins un challenge. Et là, je me disais, putain, Djoko, il va faire un truc historique. C'est-à-dire que, bam, il va profiter de l'absence des autres, il va être encore là, 39 ans, ça va être monumental, parce qu'à cet âge-là, tu peux pas faire un grand chelem. Bam, il est tombé, rétamé, bonsoir Clara, c'est fini. Et donc là, maintenant, ça me passionne un peu moins. Mais en parler, c'est agréable. C'est agréable, ça nous fait passer demi-heure, on est content, puis on parle, tout ça. Non, mais c'est vrai, quand il y a Eric qui fait le con,
il y a Salio, il y a Sarah. Sarah, c'est pas grave, ça passe
Vincent,
temps,
est-ce que tu as
pas, regardez, ça l'est moins, je te jure, ça l'est moins.
Est-ce que tu attends pas Zverev un peu avec un peu d'attention?
Oui, alors c'est vrai qu'à Zverev, mais il n'y a pas grand monde.
Il y a connu Zverev,
tu vois. Mais Zverev, oui, mais Zverev, j'aurais aimé qu'il tape un gros, quoi. Tu vois, Zverev, pour savoir vraiment sa valeur. Et tu vois, là, s'il gagne, pour moi, je vais te dire un truc. Pour moi, s'il gagne, c'est normal. Okay. Parce qu'il n'y a plus personne. Et donc, quelque part, je resterai toujours dans l'incertitude de savoir vraiment sa valeur mentale. Tennistique, on la connaît, mais mentale. Mm. Parce que, il y avait tout le monde en face, il n'y a plus personne.
Quoi. Sarah, est-ce donc, que voilà, tu te régales?
En parler, c'est sympa, mais pas plus.
Oui, je me régale, mais je comprends ce que dit Vincent. En fait, dans le sport, on a besoin de repères. On a besoin de repères pour s'emballer. Tout et là, fait. On les a plus, ces repères. On les a perdus trop vite. Donc, c'est vrai, quand Vincent nous fait une déclaration d'amour à Djokovic, c'est mais on savait très bien que Djoko, il pouvait pas aller en deuxième semaine.
Oui, mais t'espères.
Oui, mais t'espères, mais c'est parce que voilà. Pourquoi t'espères? Parce que t'as besoin de repères, t'as besoin de noms que tu connais, t'as besoin d'une histoire que tu connais. Là, pourquoi on se régale, c'est parce qu'on les voit, les matchs. Et je vous jure, quand tu te dis que tu t'ennuies, tu regardes les matchs. Tu sais quoi? On se met à deux à regarder un match. Je vais te montrer des choses et tu te régales. Hier, le match, hier qu'on a vécu entre Fonseca et Mensik, on est sur la next gen. Ils ont sorti la qualité d'un match. C'est fantastique. Mais c'est des bêtes physiques. Dans les moments importants, ils sont capables de sortir des coups, mais juste incroyable, comme si la pression n'avait pas d'emprise. Mensik, c'est une toile cirée. Tu sais, il y a un truc qui lui arrive, ça glisse. ça prend pas. Et il fait des coups, des amortis, des contre-amortis, mais il faut les vivre ces matchs pour qu'en fait ces émotions, elles te marquent et donc après tu t'enthousiasmes. Mais effectivement, si tu regardes quelques points à droite à gauche et que tu vois pas les noms que tu as l'habitude de voir, bah ouais, mais je suis sûr que Steve, t'adores voir les matchs.
Mais Steve, d'ailleurs, Steve, il a vu le meilleur match du tournoi, d'ailleurs, à tel point qu'il est parti à 2-7 partout.
Alors,
c'est quand même extraordinaire.
Il paraît
qu'il est passionné par le tennis.
Je suis parti du cours, mais je me suis fait attraper par 2-3 loustiques. J'étais encore dans l'enceinte de Roland Garros.
Ah, d'accord.
J'ai vu la fin du match, mais
bon, à quelle heure t'es parti
vraiment sur le cours? Je suis parti à
1h55.
1h55? Ah, mais
c'est sur quel match? Tu m'expliques parce que tu étais au premier rang de la présidentielle. Tu l'as vu où la fin du match?
Je l'ai vu au Club des Loges parce que je partais et au Club des Loges, je me suis fait attraper par 2-3 loustiques.
Toi qui adore le tennis, tu te régales, Steve?
Écoute, moi j'aime la vie sans repère. Moi j'aime être surpris et ce tournant-là, il me surprend.
La vie de bohème, c'est ton truc.
Ouais, la vie de bohème, c'est ça. La monotonie, Alcaraz, Sinner, c'est sympa. Mais de temps en temps, un petit peu de. Une petite faille spatio-temporelle pour que des jeunes viennent s'engouffrer là-dessus. C'est ce qui s'est passé sur le tournoi de Roland-Garros et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis c'est aussi. Ce tournoi de Roland-Garros, c'est aussi un très bel argument pour continuer à perpétuer cette tradition des matchs au meilleur des 5 manches, parce qu'on en a vu 31 je crois sur le tournoi, Eric, on se rapproche du record. Il y en a eu 33 en 1992 et tous les réformistes qui veulent raccourcir les matchs de tennis parce que c'est trop long, on a vu des matchs d'anthologie, on parlait de Menci qui finit en chaise roulante, mais des matchs de plus de 5 heures, il y en a eu un paquet.
Arnaldi là aussi,
Arnaldi il a fait que 5 marathons depuis le début de Roland-Garros. Donc, voir les jeunes qui ont quasiment su saisir leur chance du fait de l'absence de Sinner et de Carlos Alcaraz, ça m'a plu. J'ai vu une night session aussi qui a fait grincer des dents, mais moi j'ai vu Sabalenka Osaka, ça a duré certes 1h30, il y avait des gens qui étaient un petit peu déçus que ça, mais j'ai vu un match de tennis de très haut niveau. J'ai vu un match de tennis de très haut niveau avec deux joueuses très charismatiques, et puis on peut pas mettre de côté ce que Moïse Kwame nous a donné comme sensation. Le Fonseca Djokovic, que Vincent nous dit que Djokovic il aurait aimé le voir plus loin, mais le niveau de jeu entre Fonseca et Djokovic, il peut rester très haut en termes de niveau de joueur Roland-Garros. Et puis une fille qui sort des qualifs, qui se retrouve en demi-finale du tournoi féminin. J'étais emballé par ce tournoi. Après je suis aussi un
fan de tennis, t'es pas un tennis comme
Eric Dimeco, tu te régales
comme moi. Alors écoute, c'est vrai que ça faisait quelques temps que je me mettais un peu moins devant Roland-Garros, et là je regarde beaucoup de matchs cette année et je me régale d'autant plus que sort du les années précédentes, et alors ne parlons pas des années avec les trois fantastiques là, encore qu'il y avait du suspense parce que comme Federer ou Djoko ils en prenaient un de temps en temps, il y avait peu de suspense, mais ça devenait monotone quand tu sais déjà qui est en finale.
T'attends juste le dimanche en fait,
voilà. Mais oui, c'est là où je comprends pas ce que dit Vincent, parce que
c'est trop puissant. T'as du mal.
Non, mais Roland-Garros, c'est du haut niveau. C'est comme quand je te dis, Vincent, que moi, le rugby de nation, je pense que c'est un des sports les plus télégéniques qui existent. C'est-à-dire que c'est du très haut niveau, et le rugby de très haut niveau, c'est très beau. Et même quand je regarde des pays que je connais pas, on les connaît tous, puisque dans le rugby, vous êtes sec à jouer. Mais il n'empêche que quand il n'y a pas la France, quand il n'y a pas la France, je regarde avec plaisir parce que je sais que je vais me régaler. Et là, on est à Roland Garros, c'est du très haut niveau, c'est ce qui se fait de mieux. Et en effet, j'ai même regardé la petite Svitolina, moi, du coup, puisque le match a été serré, je me suis régalé. Et
tout à l'heure, voilà, c'est du tennis au niveau. Kalinskaya, c'était un super match.
C'était un super match. Et du coup, le fait que justement, finalement, regardez, hier on a fait le pronostic de Fonseca Menzik, là, puisque Fonseca il avait marqué des esprits. On s'est dit c'est lui qui va gagner, et puis à l'arrivée c'est Menzik, et puis le match il est super. Et là on ne sait pas qui va aller au bout. Et moi quand je connais pas le vainqueur et que c'est du haut niveau, je me régale plus que quand je connais le vainqueur.
Tu peux dire le contraire complètement. Tu peux dire justement quand il y avait Nadal et tout, tu savais pas qui allait gagner et tu savais pas qui peut.
Ah bon, c'est bizarre, moi je savais que c'était.
C'est exactement, Mais oui, non, mais à Roland Garros, mais dans d'autres tournois, tu pouvais te dire, mais attends, ils vont peut-être se faire contrer. Quand Zverev a failli battre Nadal, il y a beaucoup de derniers moments, tu vois. C'était des, donc tu peux exactement dire le contraire avec les autres. Et moi, je préférais voir boxer Mike Tyson que Robert
Dutton. On va en parler dans un instant. En attendant, la numéro 1 mondiale, petite difficulté là, sur son quart de finale, Eric et Sarah.
Elle est en galère, parce qu'il y a 1-0 au troisième set pour Diana Schneider, donc la russe qui est gauchère, qui joue avec un bandana, et elle a beaucoup de mal à remporter sa mise en jeu pour recoller une manche partout. Mais c'est vrai qu'elle a pris un petit coup au moral après la perte de ce deuxième set.
Alors c'est pas un bandana, hein.
Non, c'est quoi?
C'est un foulard. C'est quoi? Tu sais, c'est les bonnets c'est les bonnets sans le
bonnet de bain.
Elle peut passer le chignon.
Il s'y connaît, Eric, hein, il est coquet. Non, Eric,
mais c'est pas pour ça que c'est élégant.
Quand tu commences à parler tes cheveux, tu t'intéresses énormément à la
coiffure. On est une radio pointue, on n'est pas pointue.
Je vais m'enseigner.
Schneider, mais dans un instant, justement, la boxe, tu préfères regarder quoi, t'as dit, toi, Vincent?
Mike Tyson que Robert Drujon.
Alors justement, est-ce que Mike Tyson doit affronter Robert Drujon? C'est exactement notre débat qui arrive. C'est notre cri de gueule avec Jean-Philippe Lustig. Le champion du monde de boxe doit-il affronter le champion du monde de kickboxing? À tout de suite.
Voilà, on en parle tout de suite. Il est 15h25, on est dans le super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h30 sur RMC, le Stifounet Brun est avec nous. Eric Dimeco, Adrien Aiguin. Pierrot, dans demi-heure, faut-moi claquer le
coup. Alors, dans une demi-heure, vous allez vous prendre pour le président de la Ligue nationale de rugby et nous dire qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'il faudrait changer sur cette formule de barrage en Pro D2, mais aussi pour le titre de champion de France en top 14. Hein. Tout de suite, on va à Roland Garros parce qu'il y a peut-être un nouveau coup de tonnerre. La numéro 1 mondiale est breakée dans le 3e, Sarah Pitkovski et Eric Salio.
Ça se précise, 3-0 pour Diana Schneider, la russe, dans cette 3e et dernière manche. Je rappelle que Zabalenka avait le match en main, l'a servi pour le match, et ce deuxième set lui a échappé 7-5, et depuis, c'est la catastrophe pour Aryna Zabalenka. Je rappelle qu'elle est maudite ici à Paris. On se souvient de cette finale perdue, Sarah, face à Coco Gauff
l'an dernier.
Elle
ne
va jamais y arriver, peut-être.
Bah, écoute, je ne sais pas si on va dire jamais, mais là, en tout cas, elle s'est vraiment compliqué la tâche. Elle vient de perdre 8 jeux consécutifs. Elle vient de demander des nouvelles raquettes, des raquettes cordées, parce qu'effectivement, sa puissance ne paye plus du tout face à la Russe. Mais j'ai été regarder les stats parce que je ne comprenais pas en fait comment le match s'est retourné de cette façon-là. En fait, les chiffres sont trompeurs, mais depuis le début de la rencontre, la russe Diana Schneider a beaucoup de balles de break et elle s'en est sortie avec son service, Sabalenka. Et là, eh bien, elle n'arrive plus et donc en fait, face à ces balles de break, eh bien, elle, depuis le début du match, elle est en danger, mais on le voyait pas au score. Et là, n'étant plus sauvée par son service, Sabalenka, eh bien, elle est menée 3-0 dans la dernière manche. C'est à elle de servir. Je ne sais pas comment elle va se réveiller, mais ça, c'est indispensable d'essayer de au moins gagner son service.
Eric et Sarah, on reste avec vous, bien sûr. Les dos au mur, Sabalenka, la boxe.
RMC,
le cri de gueule du super Moscato Show.
Alors, la boxe doit-elle rester la boxe? Le champion du monde de boxe doit-il affronter le champion du monde de kickboxing? On se pose la question parce que Alexander Usyk, le champion du monde poids lourd unifié de boxe anglaise, a affronté le champion du monde poids lourd de kickboxing, Rico Verhoeven, et il a failli perdre. On accueille Jean-Philippe Lustig dans ce cri de gueule.
Salut à tous.
Salut Jean-Philippe.
Salut.
Alors, on se pose même la question, Jean-Philippe. Est-ce que c'est l'avenir de la boxe que de se diversifier, que d'organiser des événements qui ne sont pas des événements de puristes, on va dire, parce qu'il y a quand même des exemples qui se multiplient. Ça avait commencé en 2017 par Mayweather, Conor McGregor. Il se trouve que toi, Vincent, tu as apprécié ce combat Usyk-Verhoeven.
Ben, j'ai apprécié parce que j'ai toujours l'impression que un mec a fait des efforts comme ce Rico, et puis il m'est sympathique. Voilà. Ouais. Donc c'est pas très objectif. Donc quand un mec déjà est sympathique, tu trouves ça plus glamour, plus courageux. Tu te dis quand le mec quand même il se sort les doigts du nez quand même pour s'y filer, parce qu'il faut s'y mettre devant Usyk, qui était un boxeur extraordinaire que je compare souvent à Holyfield, qui a travaillé énormément. Mais bon, le problème c'est que les boxeurs l'ont souvent facile, ne se préparent pas et ça fait des combats de merde. Et t'as l'impression qu'on est passé pas loin de la catastrophe avec Rico, parce que Rico était entraîné depuis 6 mois comme un bagnard. Il s'entraînait, je te jure, c'était un mec, il a fait des efforts surnaturels et il a failli cloquer. Il a fait failli cloquer le pauvre Usyk qui était bedonnant comme on l'avait jamais vu, qui était là, qui était venu faire c'était une influenceuse, j'avais l'impression, tu vois, il était là, il était tranquille, tu vois, mais qui était pas au poids d'ailleurs, Jean-Philippe va nous en parler, mais qui était gras comme un curé de campagne, et donc ça le fait pas, parce que ça fait des combats souvent de moyens. Alors quand Mike Tyson combat, moi je veux bien, il a 60 barreaux, il a raison, parce qu'il prend son oseille, bon ben là on s'en fout, on sait pourquoi il vient, mais pas le champion en titre, c'est pas possible.
S'il te plaît pas, Jean-Philippe.
Alors bon, c'est intéressant ce questionnement, et il est légitime. Sur le match en lui-même, rapidement, Usyk est l'ombre de lui-même, 117 kilos, soit 13 kilos de plus que lorsqu'il a battu Dubois, Fury, où il est scié entre 98 et 102, 103. Donc voilà, il est hors de forme. Le scénario est dingue de ce match. Moi, je le commentais avec Jean-Marc Mormec, on l'a commenté tous les deux, et on se dit, mais ça va pas être possible. Et il s'en sort par expérience, par une forme de miracle, avant la limite, alors que les deux juges donnent match nul et un donne avantage à Rico Verhoeven. Donc, il était limite. En revanche, la distance, bien entendu, au-delà de 10 rounds, avantage Usyk, parce que un kickboxer, il boxe pas au-delà de 5. Donc, d'un côté, il y a un mec super motivé, bien préparé, qui a boxé en crunch, là, se protégeant, il est un peu spectaculaire, solide, qui fait mal. Voilà. Et de l'autre, Usyk, qui est à 30% de ce qu'il était. Maintenant, il s'en sort donc par miracle, il a pris un beau chèque, hein, autour de 45 millions de dollars.
Ouais, le problème,
Usyk,
c'est là.
Voilà. Donc, il ben prend autour de 45 et Rico, lui, prend plus de 10, soit 12 fois plus au minimum, hein, parce qu'on verra après le
gros cachet.
En kickboxing.
Ouais.
Voilà. En kick, les sommes, elles n'ont rien d'astronomique. Donc, c'est du business. Maintenant, est-ce que réellement ça fait du mal à la boxe? Moi, je pense pas. Il y a un élément intéressant. Vous savez, on peut être surpris. Alors bien sûr, il y a des références avec McGregor, avec Mayweather, avec les derniers
qui viennent
de
parler. Surtout,
bien sûr, Ngannou, on va en reparler. Mais dans l'histoire de ce sport, déjà à la fin du 19e,
oui,
le champion, un champion de boxe, Driscoll, rencontrait le champion de boxe française, et on l'appelait le combat du siècle en 99. Et déjà, on avait mis sur pied, toujours dans les sports de pied-point, savoir qui était le meilleur. Donc, il se lance des défis. Non, donc, c'est pas
ça,
nouveau.
Ça, c'était pour savoir qui était le meilleur. Il n'y avait pas toutes ces sommes d'argent en jeu à l'époque, non, en 99.
Oui,
attention.
Mais dans la dimension sportive, dans la dimension médiatique, remettez les choses dans leur contexte. C'est pas quelque chose de nouveau. On parlera d'Ali, hein, qui rencontre Anoki, le japonais, le lutteur, en 76 à Tokyo devant 15 000 personnes.
Il voulait combattre un ours aussi à un moment donné.
Oui, non, mais je veux dire, voilà, et ça n'enlève rien à la légende de Mohamed Ali, qui fait match nul devant un lutteur, voilà, catcheur, après un match nul, et nul dans tous les sens.
Alors, il y a eu quand même les combats de Francis Ngannou, qui ont été des vrais combats, ouais, de boxe. Est-ce que ça te plaît, Eric Dimeco? Est-ce que c'est l'avenir de la boxe?
Non mais parce que au début je me suis pas intéressé, hein, à ce combat, donc quand vous en avez parlé comme ça, je me suis dit c'est peut-être pas de la boxe, quoi.
Je t'interromps 5 secondes, il y a un double break pour Schneider face à Sabalenka dans le 3e set, on va y aller dans quelques instants, mais vas-y, continue Eric.
Voilà, donc je comprenais pas le truc, mais là ils ont fait un combat de boxe. Celui qui s'est mis en face Usyk, il a fait de la boxe, et il a fait de la boxe à haut niveau, du coup, puisque il a été, alors oui, en effet, l'autre il a peut-être pas pris au sérieux, etc. Mais c'est de la boxe, c'est de la boxe de haut niveau, avec un mec qui s'est boxé quand même. C'est pas, oui, contre une gorille, oui, c'est pas, parce que si vous voulez, on peut aussi faire une discipline, un boxeur contre un tireur de balle trap. Je sais déjà qui c'est qui va gagner. Mais là où je comprends pas, c'est que c'est de la boxe, c'est-à-dire que le mec qui s'est mis en face Usyk, il s'est boxé quand même. Et
parce que c'est pas puristes, Eric. Pour les puristes.
Les puristes. Sauf que la boxe, pour moi, autant tu fais, ben, on parle de tennis là. Autant Steve, il se met face à un grand joueur de tennis. Ça va être compliqué, mais il va jouer, il va faire des échanges, il risque pas sa vie, il est capable sur son service, vu que d'après ce que j'ai compris, il sert bien, il peut gagner un jeu et tout. Se mettre contre Usyk, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas, même un bon boxeur régional ne peut pas se mettre face à un champion du monde. Donc, du coup, si le mec il s'y met et qu'en plus il tient, c'est que c'est un boxeur. Donc moi, ça me dérange pas si c'est pas un mec qui joue sa vie.
Mais Eric, tu trouves que pour l'image de la boxe, Usyk est quand même le le champion du monde des poids lourds, ça aurait pas fait tâche de voir Usyk perdre, parce que c'est un
il aurait pu perdre vraiment
perdre contre un mec qui fait du kickboxing et qui est pas spécialiste de la même discipline que le champion du monde qui
perd en étant à 100%, il y a pas de souci, c'est super.
Il y a pas de souci, ça veut dire que
c'est qu'on a pas trop envie de voir Usyk, le champion du monde poids lourd, à 75% de sa forme, risquer de perdre alors que c'est le meilleur du monde. Moi, c'est ça que je trouve un petit peu naze. C'est-à-dire que les champions, ils doivent affronter des champions, mais être préparés, faire des vrais combats.
Je pense que Usyk, qui est le plus professionnel des professionnels, qui est tellement rigoureux dans ses préparations, qui aime tellement, qui est tellement dédié à ce sport-là. Voilà.
Il a pris par-dessus la jambe.
Mais complètement. C'est-à-dire que je n'imaginais pas une seule seconde que Usyk, dans la mentalité, dans son éducation, dans ce qu'il fait par rapport à ce sport, le respect qu'il a.
C'est pas Fury qui aurait pu voir débarquer, qui fait
ça. Et voilà. Devant Ngannou, c'est exactement ce qui s'est passé. Le scénario a été dingue devant Ngannou qui avait jamais fait d'anglaise. Donc, et il a tenu 10 rounds et c'est un miracle qu'il s'en sorte. Hein, on se souvient du pointage donc en 2023. Donc maintenant, Usyk a été, comme je disais, l'ombre de lui-même et il nous a surpris. C'est-à-dire que il avait pas de solution. C'est dingue. C'est-à-dire que tout ce qui fait la magie d'Usyk, hein, cette vitesse, ce timing, ce sens des déplacements à chaque fois, ce sens du contre, le coup d'œil, tout ça, ça a disparu. Et devant un mec qui est venu, un champion de kick.
Ça a un mérite, c'est de rappeler qu'en sport, et quel que soit le sport,
mais c'est merveilleux,
si t'es pas prêt physiquement, tu peux avoir la
mais c'est merveilleux.
Encore en plus. Encore en plus la boxe,
et encore plus dans le sport de combat,
parce que la boxe, quand on parle de Noblard, c'est que c'est vraiment le sport ultime, c'est-à-dire c'est le homme à homme, à main nue, codifié bien sûr, mais voilà, et le plus fort, c'est le plus fort du monde.
On va aller Roland Garros, si humble, parce que là on est tout près du précipice pour Arina Sabalenka. Juste le temps de dire qu'il y a une belle réunion de boxe avec Michel Soro à Abidjan le 10 juin.
Ah non, mais c'est une grande première. Hein. Voilà, en Afrique subsaharienne, Michel Soro, qui est originaire d'Abidjan, donc hein, qui est à la fois français, ivoirien, qui a été un champion du monde très rapidement entre les sphères welter et les moyens. Titre moyen, donc, devant un Tanzanien, Wanakia, Kevin Lelesadjo rencontre aussi un Tanzanien. Deux super combats, grande soirée qui va diffuser sur tout le continent africain. C'est une grande première et c'est le 10 juin. Il y a aussi Milan Prat au programme. Très belle soirée.
Allez, direction Roland-Garros, Eric Salio et Sarah Pitkovski, que se passe-t-il pour la numéro 1 mondiale ?
Il ne se passe plus rien. C'est le vide complet.
5-0. Elle est menée 5 jeux à 0.
5-0.
Elle a mené 6-3, 4-1.
Quand je vous dis et 6-3, 5-3.
Elle avait le match en
main. Elle a pris 10 jeux dans la vue. Il n'y a plus rien. Elle est
c'est
complètement absente.
C'est 6 heures.
Oui, enfin là, il ne fait pas chaud. Hein.
Sauf que non, mais
là, il n'y a pas de chaleur.
Oui, c'est la tête.
C'est le coup de taser.
Voilà, c'est moi.
C'est une brunch.
Ah, c'est affreux ce qu'il a dit. Quoi. Merci, on revient très vite. Alors évidemment, ça peut aller super vite. Peut-être que quand on revient dans le journal moyen, c'est déjà fini hein, ce match. Jean-Philippe, merci beaucoup.
Merci Jean-Philippe.
Sophie.
Merci Jean-Philippe.
Ciao les gars, merci à vous.
Journal moyen, juste après les paris sur RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet. Salut Christophe.
Salut messieurs. Bonjour à tous.
Monsieur Payet.
Salut.
Roland Garros.
Un match italo-italien entre deux Matteo. Berrettini, 105e mondial, contre Arnaldi, 104e. C'est hallucinant pour un quart de finale de Roland Garros, mais attention, hein. Berrettini, il a été 6e mondial, et Arnaldi, il a été 30e. 1,52 pour Berrettini, 2,55 pour Arnaldi. Arnaldi a joué 18-7, alors que Berrettini n'en a joué que 15. Ça peut compter. Évidemment. En plus de ça, il a l'expérience. Il a déjà été dans une finale de Grand Chelem, c'était à Wimbledon. Donc moi, je vous propose de jouer Berrettini, mais en 4 ou 5-7 pour doubler la mise. Et pourquoi pas précisément en 4-7, ça c'est coté à 3,60.
En 3-7, Vincent, crack.
Ah. Quand t'as dit déjà, on sortait du débat box, quand t'as dit Berrettini 105, j'ai dit, mais je pense à 105 kilos.
Qu'est-ce que tu veux, 3-7-0 Berrettini.
Allez, c'est fait.
C'est pas mal, vous m'avez pris mon pari.
Aïe, 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 vas-y, trouve autre chose.
C'est pas Eric qui parie, c'est pas Eric le.
Non, mais avec Steve. Non, mais Steve, tu sais quoi? Hier, j'ai gagné avec Mensik, donc la semaine, elle est bien engagée.
Et moi aussi, j'ai gagné avec Zverev, 3-7-0.
Eh ben, donc on peut dire juste Berrettini qui gagne, ça suffit. Comme ça, on prend même si eux, ils gagnent.
Et ben voilà.
Allez, Berrettini, c'est combien Berrettini,
Berrettini voilà.
50.
C'est combien Berrettini, simple
1,52 Berrettini.
On peut pas
merci
te le
Christophe.
Dire.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Déjà des balles de match pour Schneider face à Sabalenka, Roland.
C'est fini. Arina Sabalenka est dehors. Éjectée du tournoi par Dana Schneider. Incroyable sensation. Elle a mené 6-3, 4-1, numéro mondial. Le score 3-6, 7-5, 6-0. C'est la beauté du tennis.
Bravo, c'est la beauté du tennis, Eric. Quel enthousiasme. Journal moyen dans un instant.
La beauté du rugby, Eric, ce sont les 6-2. Je sais que tu aimes ce sujet.
Maintenant, il faut même... pas faire le débat, mais t'as
maintenant, il faut même du business ensemble, Eric. Il croque. Et puis, on prend dans la direction de New York les billets pour le Madison Square Garden pour les finales NBA. C'est du délire. C'est tout de suite. Journal moyen, première édition.
Il est 15h43, le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 17h48, on est dans le Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouet, première édition.
Oui, Pierrot ?
Non, c'est pas l'heure, mais c'est pas grave, c'est un petit décalage.
Il est 15h48 sur
RMC. C'est à l'heure d'été.
C'est.
Tu sais quoi, je m'ennuie pas avec vous.
Mais voilà, ça passe vite. Il est 15h48, le journal moyen, l'actu, la culture, les médias, une histoire de fils d'eux qu'Éric Dimeco va apprécier encore en rugby. On prend dans la direction de New York. T'aimes bien chanter cette chanson, Vincent ? New York. Et puis, hommage à Thomas Pesquet, il est doué, la pesque, comme tu l'appelles. Vous écoutez RMC, c'est le 2685e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Les valeurs du rugby et des pubs. Croc, croc, croc. Alors Eric, tu vas boire du petit lait. Tu dénonces depuis plusieurs années dans Moscato Show le phénomène des fils de rugby. Et depuis plusieurs jours, on retrouve une pub qu'on a déjà vue il y a un an, qui retourne sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Maintenant Eric, ils font des pubs entre père-fils de rugby. Oh, vous avez vu la pub de Romain et Mylène Tamac pour un rasoir bien connu. Franchement, c'est la transmission dans le rugby, c'est la transmission dans le business également. Et ils jouent bien la comédie, ils sont pas mal dans le jeu de comédien. C'est
Eric.
Ah bah oui. Tu vas voir la suite de la séquence, Stephen. Écoute bien.
Romain et Mylène
dans la même pub. Il y a Romain qui est à Paris, il est en train d'essayer de se raser, et puis il y a papa qui arrive derrière. Franchement, Vincent. C'est pas naze quand on pense à certains footeux actuellement. Romain et Emile pour une pub de rasoir.
Salut, c'est Intermac, rugbyman international.
Hop. Attends un peu. Moi aussi.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
Rien, continue.
Pour me raser, j'utilise mon rasoir.
Et moi aussi, j'utilise mon rasoir. On change pas l'équipe qui gagne.
Oui, mais bon, moi je peux changer la tête du mien quand je veux.
Et moi aussi. La quoi ?
Ouais, la tête du rasoir, pas. Faut se mettre à jour. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Pas mal, papa.
C'est très correct.
C'est bon,
quand même. C'est
quand même. Ça doit leur faire bizarre. Hein. Alors, Emile, grand champion.
Oui, ça doit faire bizarre.
Son fils est un grand champion. Ils font des petites pubs.
Quand ils ont vu le virement de 500 000 euros, je suis pas sûr qu'ils trouvaient ça très bizarre.
Tu vois qu'ils ont le même cachet ou Romain
en a plus. Romain a plus.
J'espère.
Je signe un package quand même.
J'espère qu'ils partagent.
Peut-être qu'Emile passe derrière en lui disant pop.
Ouais. Mais non, mais à la limite, peut-être que parce que le gamin est en activité, peut-être qu'il touche plus. Mais j'espère quand même qu'à l'arrivée,
on n'est pas inquiet pour Milou.
Non, mais c'est pas une question.
Vincent, s'il fait une pub avec Alizé ou Alba, il partage.
J'espère qu'il le partage. Il partage, lui.
Toi.
Ça fait 30 ans que je partage.
Ouais. Tu me dirais, c'est autre que partager. C'est partager à leur avantage.
Vincent, il a trop partagé. Mais moi, on s'est dit avec Suzanne Folly, notre réalisatrice, il manquait quand même un guest dans cette pub pour qu'elle soit upgradée. Il manquait un footeux. Le roi de la pub actuellement. On organise un crossover. Rugby, fils de et footeux.
Salut, c'est Intermac.
Salut les amis, c'est Eric Dimeco.
Rugbyman international.
Sur les routes, comme sur le terrain, chaque détail compte.
Attends un peu. Moi aussi.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
Rien, continue.
Le Tour de France se passait le lendemain par là.
Pour me raser, j'utilise mon rasoir.
Stratifié, bois, vinyle, terrasse.
Moi aussi, j'utilise mon rasoir. On change pas l'équipe qui gagne.
Dans ce coin-là, c'est une fête de village. Une vraie.
Ouais, la tête du rasoir, pas. Faut se mettre à jour. Hein.
Une stat qui donne le vertige. Ouais. Allez, bonne route.
Vous allez être contactés, les gars.
Non, mais c'est pas pareil de jouer lire un texte bêtement.
Quand t'avais la réplique d'Al Pacino, on aurait dit De Niro. C'est vrai.
Mais écoute-moi, c'est vrai. Non, mais je demande facile. Moi, je trouve. Justement, repasse-le. Moi, je trouve que c'est plus facile quand tu es à deux que de lire un texte tout seul. Il me semble.
Elle était bien cette fête de village.
Non, mais c'est bien. C'est parce qu'en plus, les deux, ils se connaissent. Donc, ils déconnent un peu.
C'est sympa.
Mais cette pub-là, elle va passer cet été en entier ou pas ?
la salle d'Eric. Ouais. Elle est, je t'en dirai plus dans quelques jours.
elle est. Si tu écoutes les, les podcasts du Moscato Show,
voilà.
Ce que je fais moi, eh ben tu pourrais l'attendre.
Et puis je me suis procuré, mais j'essaie d'avoir l'autorisation. Tout, ouais. Je vais l'avoir parce que je commence à avoir le bras long. J'ai les rushs de tous les enregistrements et tous les tests d'Eric.
J'ai signé un contrat de confidentialité. Si ça sort, RMC me doit 500 000 euros. Okay, voilà, okay. Ça va leur apprendre. Vas-y, prends le risque de la sortir.
Sans transition, direction New York.
An orange juice and a coffee.
Les finales NBA, c'est cette nuit. Événement à San Antonio, hein, le match 1. San Antonio, New York, 2h30. On en parle avec Jacques Monclar à 17h30. San Antonio face aux Knicks de New York. Les prix pour les places à New York de la folie. Pour les 3 matchs, Stephen, je passe ton contrôle. 3 matchs maximum prévus à New York. Le prix médian du premier match au Madison Square Garden, salle mythique, approcherait en ce moment les 8 000 $. Si il y a un éventuel match 6, on frôle pour le moment les 11 000 $, le billet, le prix médian. C'est de la folie. Ça va terminer très haut cette histoire.
C'est la billetterie. La billetterie première ou en revente?
C'est pas la revente.
Officiel.
C'est sur Ticketmaster.
On est sur la base.
Site officiel de
la revente. La revente, tu vas revendre 50 000.
Mais c'est tout en haut, au dernier rang, tout en haut, c'est 2 000 $.
Wow. Non, mais c'est de la folie. Alors, il y a déjà des.
La revente, au dernier rang, au Madison, tu vois pas super bien. Faut pas.
Il y a l'écran géant qui te permet de suivre des trucs. Envoyer 2000 boulettes. Alors, il y a Victor Mbayama, tu sais que c'est lui sur le parquet. Les autres.
Tu peux dire qui était, mais bon, tu vois. Il y a des stars qui ont déjà réservé leur place. Spike Lee, évidemment.
À la revente, tu vas avoir des 50, 60, 80 000.
Timothée Chalamet, évidemment. Et Lenny Kravitz. Mais ils payent, paye, tu vois, ou pas?
Non, ils ont l'abonnement à l'année Kansai qui paye
des. Ils le payent eux-mêmes ou ils sont invités?
Ouais, ils font passer ça sur la société, je pense.
Sur la société?
Ah non, c'est de l'abus social là.
Pour ta société, tu peux.
De l'abus,
c'est
bien social.
Tu peux t'acheter
trois places
pour tes clients.
Ma foi, bien sûr, quand même. Tu as le droit.
Ah, si tu invites des clients, oui.
Bah alors, si t'as 3 places en conseil,
cette finale fait réagir tout le monde. Donc les prix, la municipalité de New York, le maire de New York, Zoran Mamdani, a signé un décret spécial, pour rigoler, hein, mais un décret spécial qui abroge l'heure du coucher pour les enfants qui habitent New York, histoire de leur permettre de regarder un peu tard les finales NBA entre les Knicks et San Antonio. Il a signé un ordre exécutif qui abroge vraiment l'heure du coucher dans la ville pour les enfants de tout âge, hein, pour qu'ils puissent regarder les finales.
Emmanuel Grégoire a voulu faire ça pour les enfants à Paris, mais bon, c'est un peu tard quand même, 2h30 du matin.
2h30 du matin,
ça passe la nuit d'ailleurs. Et Eric va regarder.
Moi je regarde, ouais.
En tous les matchs.
Ah, je vais. Alors, attention.
La nuit prochaine, tu te lèves.
Alors, je mets le truc, sauf qu'il y a des jours. Ou eh ben j'y arrive pas.
Ah bah voilà, ça va fatiguer. Si tu te réveilles pas, tu restes couché.
Mais voilà, mais là franchement, je
Stephen,
ça te met le réveil et puis
demain matin 8h.
Demain matin 8h sans rien savoir
quand tu regardes le score.
Toi tu en fiches quoi? Ok, Pierrot.
Tu as remarqué que pour pas spoiler, je t'envoie plus les résultats.
C'est gentil, bien. Alors après, quand t'as écrit Wemby, 14 Y, j'ai compris quand même qu'il avait fait quelque chose d'intéressant.
Ah oui, ça spoil ça, merde.
Continue de pas envoyer parce que moi je regarde, mais sans connaître le score, hein. En replay le lendemain matin.
Et Vincent, s'il y a un match 7, est-ce que tu te réveilles à 2h30?
Match 7, oui.
Match 5, match 6.
Je suis les estrés, moi.
Après, c'est dur, 2h30, mais en live, c'est dur.
Sur TikTok, ça tombe, hein, pim pom pam.
Ah, ça tombe sur TikTok.
Non, moi, ça me vient de suite. Là, tu vois,
le truc rond qui tombe sur TikTok, c'est pas les ballons de basket, hein, Vincent, j'ai l'impression.
Non, mais arrête.
Non, mais oui, bien sûr.
Ah, bah, t'es fou. C'est quel suspense. Et puis après, l'espoir qui fait en 7, la finale, elle se fait en 7 rencontres, c'est extraordinaire.
Imagine la finale top 14.
Ah, ouais, c'est génial. En plus, bon, ben là, il y a Wembanyama.
On sera en direct de San Antonio à 17h30 avec Jacques Monclar.
Tu fais une finale du top 14 au meilleur des 4 matchs. Je termine un an après, par contre.
Il y a des morts. Au quatrième match, il joue à 3 contre 3.
Le rugby, on en parle après les infos. Barrage en top 14, barrage en pro des deux. Que faut-il changer, Vincent, avec le problème? Nous serons avec le manager de Provence Rugby qui joue sa montée samedi à 18h.
Au Pierrot, oui. Enfin, ça va, tout à fait. Il est 15h57, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.